Welcome to Fleischmann Hillard's Europe podcast, where the Brussels team and a variety of guests discuss the intersection of European politics, policy and communication, on and offline.
Jean-Sébastien, toi tu couvres l'actualité européenne en tant que journaliste freelance.
Oui.
Et à côté de ça, tu écris un blog depuis quelques mois.
Depuis 6 mois, à peu
depuis
près.
Depuis 6 mois, oui. Où tu parles des mêmes sujets, des affaires européennes, avec un ton très humoristique, que moi j'apprécie beaucoup. Donc je suis contente que tu aies accepté de te faire interviewer. Qui semble vraiment complémentaire à tes articles. C'est-à-dire que, moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce que tu utilises ton blog par rapport aux articles presse que tu publies? Est-ce que tu parles de sujets différents? Est-ce que tu utilises un ton différent? Est-ce que tu te permets d'exprimer des opinions personnelles sur ton blog que tu ne ferais pas dans les articles, par exemple? Voilà, donc c'est, pour toi, le blog, c'est quoi?
C'est complémentaire dans le sens où ce que je fais sur le blog, c'est en partie ce que je peux pas faire à côté. Ça veut dire, quand j'écris pour un magazine spécialisé, pour la presse professionnelle, ou par exemple peut-être la presse pour les avocats, c'est un style très rigide, très technique, très intéressant parce que je peux aller au fond des dossiers, mais je veux dire qu'il n'y a pas de place pour une certaine liberté d'expression ou de style. Il faut s'en tenir au canon, et voilà. Mais à côté de ça, dans mon travail quotidien, je suis amené à faire des recherches, à trouver des choses qui peuvent me paraître pertinentes, mais que je ne pourrais pas traiter dans ces sujets que je vends à droite, à gauche pour la presse spécialisée. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? C'est que je garde cette matière et je m'en sers après pour écrire des billets, où là, finalement, étant donné que c'est un blog, et que finalement, c'est une part de mon travail personnel, je peux me permettre, parce que je fais ça sur mon temps libre, ça me rapporte absolument rien, je peux me permettre d'avoir un ton un peu plus humoristique, de m'amuser à titiller les institutions européennes, en ayant toujours dans l'idée que ça peut être drôle et un petit peu taquin, ou ce qu'on veut, mais il faut que ça soit argumenté derrière. Tu disais qu'il était question de donner son avis personnel. Je pense pas faire un travail d'édito via mon blog, c'est plutôt essayer de faire un travail de critique, de libre expression, avec derrière des faits. Et c'est ça que je trouve amusant, démontrer par A plus B que là on a un problème ou autre. Et c'est des choses que je pourrais pas forcément vendre dans la presse traditionnelle, parce qu'il n'y a pas forcément de public autre que les lecteurs européens assez réduits.
Et comment est-ce que ton blog est reçu dans la communauté européenne? Est-ce qu'il est lu déjà? Est-ce que tu t'es rendu compte que les gens le lisaient?
Oui, j'ai l'outil WordPress, je ne sais pas sa fiabilité pour dire les chiffres, mais oui, il est lu, je ne sais pas, le mois dernier, c'était pas beaucoup, hein, je crois que c'est 4000 visites par mois. Moi, je fais pas ça pour la gloire, hein. Je fais ça parce que j'aime bien écrire, que quand j'ai de la matière, j'aime bien l'utiliser, et voilà.
Et qu'est-ce que tu vois comme les avantages pour un journaliste de tenir un blog? Bon, t'en as déjà un peu parlé, mais qu'est-ce que tu vois comme avantage et qu'est-ce que tu vois aussi comme problème potentiel que ça peut entraîner?
Avantage, moi, après, c'est particulier à ma situation, qui est quand même que je suis indépendant, freelance. Ce blog rentre aussi, moi, il faut être honnête, de toute façon, je l'ai écrit quand je l'ai ouvert, il y a une part de personal branding qui dit que, voilà, j'ai une spécialité qui est les affaires européennes. Donc, clairement, ce blog, c'est aussi en partie pour me vendre, parce qu'il y a aussi une page où il y a mon CV, il y a une page où il y a tous mes articles, il y a une page où il y a toutes mes interventions. Si je niais le fait qu'il y a une part de publicité, ça serait assez difficile à tenir comme raisonnement. Donc il y a cet avantage d'offrir une vitrine à ce que je fais depuis Bruxelles.
Et c'est lu donc par d'autres gens que des gens de Bruxelles, surtout que tu traites de l'actualité belge également.
Oui. Des fois, dans les commentaires, on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas de la bulle bruxelloise ou autre, et tant mieux.
Et comment est-ce que tu utilises Twitter? Tu es aussi très actif sur Twitter. Et dans ton travail, ça a quel rôle? Est-ce que tu l'intègres?
Ça en a plusieurs. Il y a un rôle où moi, je mets de l'information moi-même. Donc, ça veut dire des revues de presse le matin, souvent des articles qui me paraissent les plus pertinents. Je regarde aussi pour ce que mettent souvent les gens que je suis en revue de presse. Je mets aussi, ça me permet de poser des questions. parce que maintenant j'ai, je ne sais plus combien de personnes me suivent, je crois que je suis à peu près à 1000. Des fois, il m'arrive de buter sur quelque chose, j'ai une question où j'ai pas la réponse. Et comme il y a beaucoup de spécialistes aussi sur Twitter, des gens qui sont très experts dans leur domaine, je pose une question et dans, je sais pas, 80% des cas, j'ai une réponse dans l'heure, souvent grand maximum, parce que de toute façon après c'est perdu dans les timelines de chacun. Donc ça, c'est un outil. Et après, c'est aussi un outil de veille. Dans le sens où je suis des choses bien précises qui peuvent être à la fois des porte-paroles, des partis politiques, des associations, des institutions qui, via Twitter, vont aussi faire leur communication, lancer leur communiqué de presse ou autre. Et c'est vrai que des fois, bon, la boîte mail, j'ai pas pensé à regarder, j'ai oublié qu'il se passait ça aujourd'hui parce que j'avais déjà deux autres articles à faire. Et puis par hasard, je regarde sur Twitter, où je remonte un peu mon flux pour voir ce qui s'est passé ces dernières heures, et je tombe sur le truc, et là je fais « Ah oui », ou alors « Ah tiens, ça y est, c'est tombé ». Donc voilà, c'est aussi un outil de veille qui, bien organisé, avec ses listes et tout ça sur Twitter, permet de cerner ce qui se passe à peu près dans la bulle européenne, parce que bon, ça s'est assez rapidement répandu.
D'accord, et comment est-ce que tu... Les informations que tu peux parfois trouver via Twitter ou des blogs, les réseaux sociaux... et Internet en général, comment est-ce que tu l'utilises dans tes articles de presse ? Est-ce que ça t'arrive de citer des tweets, par exemple, ou de citer un blog
Ça dépend.
Est-ce que tu considères ça comme une ressource ?
Les blogs, ça dépend du blog, en fait. C'est, par exemple, pour prendre un exemple très bateau, le blog de Jean Quatremer peut être cité comme une source, parce qu'on sait que c'est une source viable. Après, si c'est un blog que je viens de découvrir 10 minutes avant... il me faut un peu plus de certitude par rapport à ma source, parce que après ça met en péril le reste de mon article. Donc si je trouve sur un blog une information et que je peux pas vérifier la viabilité de ce blog, je vais essayer de trouver la même information ailleurs. Après, pour ce qui est d'un tweet, ça m'est peut-être déjà arrivé sur mon blog, oui, ça m'est déjà arrivé de citer des tweets pour des articles sur mon blog. Dans mes articles, je pense jamais. Pourquoi sur mon blog ? Parce que je traite des fois de sujets par rapport à justement l'utilisation des réseaux sociaux en politique européenne. Mais dans mes articles, non. Pour l'instant, sauf si je dois citer le tweet d'un politicien.